ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à bord de l'émission Ces gens qui font la différence. On est en direct aujourd'hui et vous savez qu'on a une heure avec une invitée spéciale, une invitée qu'on aime, qu'on admire par ses réalisations dans son métier, mais aussi humain. Ses qualités, ce sont les qualités pour cette émission, pour découvrir pourquoi ces gens-là font des choses extraordinaires et pourquoi et comment ils sont arrivés là. Alors, Roxana Robin, elle est fondatrice et directrice de l'organisme Aide internationale pour l'enfance. Et donc, elle a travaillé comme bénévole dans un orphelinat en Inde. C'est une expérience qui a fait en sorte qu'elle a voulu fonder ça. Et il y avait une urgence chez elle de travailler pour les enfants, parce qu'elle n'était vraiment pas destinée à travailler pour les enfants. Elle voulait être danseuse, et elle a été danseuse. Alors, bonjour Roxana Robin.
Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à vous, je voulais dire aussi vos médailles. Alors en 2006, Roxana Robin a reçu la médaille de la paix décernée par le WAI du Grand Montréal, ainsi que la médaille du mérite de l'Ordre des Chevaliers de Sainte-Catherine du Sinaï pour son engagement dans la lutte contre l'exploitation des enfants. Quand je vous parle de médailles, ça vous fait quoi?
Oh, c'est toujours agréable. Ça fait toujours du bien, mais c'est une reconnaissance surtout. Puis c'est une reconnaissance qui n'est pas pour moi nécessairement, c'est surtout pour le travail qu'on fait dans l'organisme. Donc c'est une tape sur l'épaule, voilà, c'est une belle reconnaissance, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien d'être reconnu et de savoir qu'on est apprécié. Dans ce qu'on fait, dans notre combat au quotidien. Donc oui, c'est super, ça fait toujours beaucoup de bien.
Alors, vous étiez, je disais en introduction, que vous étiez danseuse.
Oui, dans une autre vie.
Dans une autre vie. Mais je vais aller au tout début.
D'accord.
C'est-à-dire que vous avez eu une petite enfance un peu difficile, adoptée.
Adoptée, effectivement.
Au début de ça, évidemment, c'est loin. Hein, les souvenirs sont comment? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous êtes née au Bangladesh.
Oui.
Mais après, comment ça se passe?
Alors, en fait, je suis née au Bangladesh. À l'époque, c'était la guerre de l'indépendance du Bangladesh avec l'Inde. Je ne sais pas, dans notre dossier, à ma sœur et moi, j'ai une sœur biologique qui a été adoptée en même temps que moi par la même famille, le même couple. Et ce qui est marqué dans notre dossier, c'est que nos parents sont décédés pendant la guerre. Et nous, on a été amenés à l'orphelinat par une vieille tante qui est décédée par la suite. Et on a dû rester à l'orphelinat à peu près un an et demi. Et voilà, et après, au-delà, on a eu la chance, grande chance, incroyable, de sortir de ce pays, de sortir cette misère et d'être adoptée en France.
Ben oui, c'est ça, une famille française.
Un couple français, ouais.
Et vous aviez donc quel âge?
Moi, j'avais 2 ans et demi, donc je ne me souviens pas de grand-chose. C'est sûr que oui, on a toujours une mémoire. Je pense qu'à cette époque-là, à cet âge-là, c'est plus une mémoire sensitive, c'est sensoriel, c'est les sens, c'est les odeurs, voilà, c'est les bruits, c'est les sons. Je m'en suis rendu compte quand je suis revenue en Inde. Des choses sont revenues, elles sont remontées à la surface auxquelles je m'y attendais
pas. Parce que le 2 ans, c'est très très jeune.
Ouais.
Pour se rappeler, donc vous vous rappeliez seulement des odeurs.
Des odeurs, de sensations, de bruits aussi. Mais je me souvenais d'avoir eu faim. Ça c'est une chose.
Ah ouais.
Oui. Là, je me souviens très bien quand on me volait mon bol de riz. Ça, c'est quelque chose qui. Et que c'est ma sœur qui me défendait.
À l'orphelinat.
Oui. Oui. Ça a toujours été très très fort en moi, ça. Cet sentiment de vulnérabilité totale, de pas pouvoir me défendre, de ouais.
Alors là, par contre, ça va très bien pour vous dans le sens que il y a une famille qui vous sépare pas, hein. Ça c'est important
non,
parce que c'est pas toujours évident.
Oui, et j'ai toujours beaucoup de reconnaissance envers mes parents adoptifs pour justement nous avoir adoptés ensemble. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait parce que il y a beaucoup de familles qui veulent absolument avoir un enfant et qui sont pas prêts à prendre des fratries. Et qui sépare les fratries. Moi, je suis contre ça. Parce que c'est important de rester ensemble. Moi, si j'avais pas eu ma sœur, et si ma sœur m'avait pas eu, voilà, on aurait été séparés. Ça aurait été horrible. Moi, ma sœur, c'est ma première mère, c'est ma maman.
Mais complètement, vous avez dit tout de suite qu'elle
vous
défendait en plus.
Oui, elle s'occupait de moi, elle me nourrissait, elle allait pêcher des poissons qu'elle me donnait. Voilà, je veux dire, C'était ma mère, ça l'est toujours un peu, à quelque part.
Alors, vous traversez, c'est une façon de dire, vous faites pas mal de millages pour vous rendre à Paris.
Oui, oui.
Ça, c'est quelque chose. Donc, aussi, une nouvelle langue, même à 2 ans, on parle, mais je veux dire, il y a quand même des nouveaux apprentissages.
Oui.
Vous habitez combien de temps à Paris ?
En fait, non, mes parents habitaient à Bordeaux. J'ai grandi, ma petite enfance, en fait, on l'a faite dans un tout petit village à Bordeaux, en France, enfin, à côté, à 50 km de Bordeaux, en fait. Et ensuite, c'est quand j'ai décidé réellement de devenir danseuse que là, et en plus, mes parents se sont séparés, donc je suis allée vivre avec ma mère à Toulouse. Et de Toulouse, ensuite, je suis rentrée au conservatoire de danse de Paris, donc voilà, okay. C'est beaucoup plus tard.
Comment ça se passe, votre enfance ? Bon, parce que
vous êtes
d'adoption, de terre d'adoption, très très jeune.
Oui, la seule noire dans une école de 1000 élèves, beaucoup de racisme, beaucoup de voilà, moi j'ai vécu le racisme, j'ai vécu l'intimidation, je pourrais en parler, je pourrais faire des conférences spéciales là-dessus.
Alors là, danseuse, comment vous étiez toute petite ? Est-ce que vous m'avez dit, je pourrais faire des conférences sur l'intimidation. Ça a été très dur à l'école, la seule noire.
Ouais.
La France est dure aussi.
Hein. Oui, j'ai trouvé très raciste. Beaucoup plus que le Québec. Moi, quand j'entends des immigrés qui disent que les Québécois sont racistes, ça me fait rigoler.
Il faut qu'ils aillent faire un tour là-bas.
Aller faire un tour en France, aller faire un tour en Allemagne. Moi, ça fait 20 ans que je vais une fois par année en Allemagne et voilà, et ça n'a rien à voir avec le Québec. C'est beaucoup de racisme, beaucoup d'intimidation. Mais après, voilà, la France a quand même beaucoup évolué. Moi, quand je retourne de temps en temps, là où je viens, et je me dis, waouh, c'est fou, parce que, en fait, les Blancs, maintenant, sont devenus une minorité. Je trouve ça génial, en France.
C'est la revanche, quoi.
C'est un peu la revanche personnelle, où tu vas dans un café, tu vas au McDo, et en fait, mon conjoint qui est Blanc, c'est le seul, souvent, tu vois, à être Blanc. Moi, je trouve ça génial.
Donc, ça a évolué.
Ça a beaucoup évolué dans les petits villages en
heureusement,
France.
Heureusement.
Oui, il était temps.
Alors, l'école, je reprends ma question. Comment vous étiez toute petite parce que là, c'était dur avec les parents.
Oui, ça s'est très mal passé.
Bon, l'intimidation, dans quoi vous vous réfugiez ?
Au départ, dans pas grand-chose. Et ensuite, quand ma mère m'a fait... Parce que c'est le rêve de ma mère. Ma mère voulait devenir danseuse classique. Ça a toujours été son grand rêve. Et donc, c'est elle qui m'a initiée à la danse classique. Et au départ, j'ai trouvé ça génial. Parce que d'abord, ma couleur de peau n'était pas du tout prise en considération. Pour une fois, je n'étais plus la petite noire. Je n'étais pas la négresse. J'étais Roxana, la jolie petite fille. Donc, ça a changé complètement ma
vie. Comme quoi, les arts, ça change. Hein.
Oui. Puis la
façon... ouvert.
La façon dont on se regarde, surtout la perception qu'on a de soi-même, qui est complètement différente. Et j'ai adoré. Et moi, je rêvais de paillettes, de strass, de diadèmes et de tutus. Donc voilà, pour moi, la danse, c'était génial, c'était super. Jusqu'au moment où ça a complètement changé, où je me suis rendu compte que quand on fait ça de façon professionnelle, ça, le strass, les paillettes, le tutu, les diadèmes, c'est
alors, vous commencez rien. Une formation classique. Est-ce que vous allez dans le moderne ? Vous avez quel âge quand vous mettez le tutu ?
Ah, j'ai 10 ans et demi.
Quand même.
Oui, c'est tard. Pour être danseuse classique, c'est tard. Ça commence à 6 ans, normalement.
Exact. Oui,
j'ai commencé très tard. Donc, j'ai beaucoup de rattrapage à faire. C'est pour ça que je travaille sûrement beaucoup plus que les autres dans mes cours. Mm-hmm. Moi, quand je rentrais à la maison, je m'étirais, je faisais des étirements, je travaillais mon coup de pied, je travaillais mon grand écart, je travaillais tout en plus des autres.
Donc, à 10 ans, vous commencez, mais vous voyez qu'il y a un petit retard par rapport aux autres.
Oh, un gros retard par rapport aux autres. J'ai un gros retard par rapport aux autres, mais j'arrive à le rattraper. Donc, c'est pour ça qu'à 14 ans, j'arrive à rentrer dans une école semi-professionnelle. Je commence à danser avec des élèves de mon âge. Je prends des cours avec des élèves de mon âge. Et c'est une école semi-professionnelle qui fait beaucoup de spectacles. Donc, je participe à plein de spectacles. Donc, ça, c'est extraordinaire. Sauf que, voilà, le milieu de la danse, c'est un milieu qui est horrible, qui est très dur, très dur, très dur. Beaucoup de compétition. Je ne suis pas une fille compétitive. Je ne suis pas une fille qui aime la compétition. J'aime pas ça.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on sait que dans le milieu des mannequins, ils se font des trucs pas possibles.
C'est
alors,
drôle, dans que vous me disiez ça, parce que je trouve que le milieu de la danse se rapproche beaucoup, je trouve, du milieu de la mode. C'est beaucoup l'apparence, c'est beaucoup... on se regarde dans le miroir 8 heures par jour. La différence, par contre, c'est que nous, dans la danse classique, on se regarde dans le miroir, mais on se juge, on s'auto-critique et on ne laisse rien passer. Je veux dire, si un port de bras est mal fait, si un port de tête est mal fait, on le reprend 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et on apprend à se juger. Donc, on n'est jamais bon.
La relation avec la nourriture ?
Oh ben oui, l'anorexie. Moi, je me suis fait vomir pendant des années.
Ah oui ?
Ben oui, je veux dire, oui, moi j'aime bien manger, j'adorais le saucisson et j'adore toujours le saucisson.
Vous étiez à Bordeaux et tout ça, et ça devait être bon là-bas aussi.
Oui, ben oui, la bonne bouffe, quoi. Les bonnes, les... Oui, puis ben voilà, moi non, on se faisait peser à chaque semaine
Ah
dans
oui?
l'école où j'étais, oui.
Dans l'école de danse, ils vous mettaient sur la
Ah
balance. Parce qu'ils
oui.
font ça avec les mannequins, mais
Ah non,
avec
non, non, en
les...
danse, tu te fais
Aussi.
peser. Ben oui, il ne faut pas que tu dépasses un certain poids. Oui, c'est extrêmement important. Et on se faisait vomir en chœur, toutes ensemble,
Oh,
dans les
bah, disons,
toilettes.
c'est agréable.
Mais j'étais
On
pas
fait.
anorexique non plus, quoi. J'étais pas dans le sens que je me voulais pas maigre, maigre, maigre. C'est juste de vouloir pouvoir manger sans prendre de poids, c'est tout.
Pour avoir l'air d'un.
Garder la même ligne,
La même ligne, c'est
ouais.
ça. Sinon, est-ce que vous faisiez dire? Est-ce
Ah
que.
oui. Oh,
Ah ouais?
oui,
Mettre
ça
de
m'est
côté
arrivé.
aussi?
Ben moi, à l'âge de 14 ans, j'avais déjà des seins, j'avais une forte poitrine, j'avais des hanches, j'avais des... Voilà, j'étais une femme, hein, j'étais menstruée à 10 ans, donc à 14 ans, j'étais quand même une femme. Donc oui, je me le faisais dire, tu sais, ça serait bien, tu sais, voilà, que tu sois un petit peu plus
Milieu
mince.
difficile, hein?
Oui, milieu très dur pour l'estime de
Et
soi.
vous, maintenant, avec le parcours, on va y aller dans ce que vous faites et tout ça, mais avec un regard en arrière, vous devez dire c'est des dons superficiels finalement par rapport à ce que vous
Oh,
faites.
mais même pas avec le recul. À l'époque même, je m'en
Même.
rendais compte. C'était oui, c'était très
C'est ça, hein?
superficiel. Ben oui.
On fait une pause, mais c'est une pause musicale, et puis on vous demande toujours de choisir vos musiques. Vous avez choisi Mistral, gagnant de Cœur de Pirate, pourquoi?
J'adore. Mais d'abord Renaud. J'adore Renaud. Je l'ai écouté toute mon enfance et j'ai entendu récemment l'interprétation de Cœur de Pirate. Je l'ai trouvée touchante et elle disait qu'elle pensait à sa fille. Et moi, j'ai deux filles. Et voilà, ça me fait, voilà, c'est ça me fait penser à mes filles aussi. Donc,
Alors,
c'est la petite fille qui écoute la chanson en pensant à ses filles maintenant devenues maman.
Oui, puis tout ce que vous faites pour les enfants, je vais vous dire, on va y aller après, là,
OK.
quand on va lâcher la danse, on va grandir avec vous, on l'écoute.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Lui donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire aller, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur mon banc, 5 minutes avec toi, et regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants, c'est pas nous. Que si moi je suis bas, je n'ai que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et on porte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Je suis en compagnie de Roxana Robin et on est rendu à l'histoire de la danse qui est pas une histoire facile finalement, qui est quand même au début une belle histoire parce que vous m'avez dit, je me voyais avec des paillettes,
ouais, danser. Un petit peu le rêve de petite fille en fait,
exactement.
Que toutes les filles ont sûrement. Après voilà, il y a la réalité qui est tout autre. Donc, et puis il faut avoir le caractère. Je pense qu'il faut avoir le caractère pour ça, pour être danseuse classique. D'abord, c'est comme un sport de haut niveau déjà. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Mais moi, quand je vois les Jeux Olympiques, je pense souvent à la danse parce que c'est la même chose. Tu t'entraînes, tu ne fais que ça. T'entraîner, travailler. T'as à la barre au milieu, les pointes, les pattes de tout.
Alors, est-ce qu'il y a une communion avec le public? Est-ce que vous rendez à des récitals, des spectacles et tout ça? Est-ce que ça va très loin, ce niveau-là?
Non, ma carrière n'a pas vraiment décollé. Oui, mais en fait, j'ai quand même vécu un rêve. Et c'est là où je me suis dit, il faut que tu arrêtes. Parce que quand j'étais petite, quand je faisais de la danse, je me disais, moi, mon rêve, c'est de danser du bal en Chine sur une scène aux États-Unis. Voilà. Alors, pour moi, c'était le summum du bonheur, danser du bal en Chine aux États-Unis. Et j'ai dansé du bal en Chine aux États-Unis. Et j'étais profondément malheureuse.
Alors, donc, il y a le départ, la France.
Ouais.
Vous allez à New York, c'est ça?
Oui, et d'abord, New York, c'est une ville que j'adore. Ça se passe quand même assez bien parce que c'est dans la compagnie Alvin Ailey, qui est une compagnie qui a été faite vraiment pour les gens noirs, qui a été faite par un noir pour des noirs. Puis, il y a une énergie qui est là, qui est très motivante, qui est très inspirante. Et j'adore Alvin Ailey. C'était un chorégraphe qui était passionné, c'était magnifique ce qu'il faisait. Et donc, ce temps-là était bien. Et ensuite, j'ai été engagée dans une autre compagnie qui s'appelait l'American Repertory Ballet, qui était en banlieue de Manhattan. Et voilà, et ça, par contre, ça a été l'enfer. Ça a été 7 mois de tournée. On a tourné avec Casse-Noisette et Roméo et Juliette. Et j'ai détesté. J'ai détesté la vie de tournée, j'ai détesté le maître de ballet, j'ai détesté le directeur. J'étais pas bien, on me payait... En fait, ils ne faisaient pas mes papiers. Ils me promettaient de faire mes papiers pour rester aux États-Unis.
Okay, exploitation. C'est marrant parce que là, on va y arriver comme l'exploitation finalement avec les enfants.
L'exploitation totale. On me faisait travailler 10 heures par jour en promettant d'être distribuée. Je n'étais jamais distribuée. Donc moi, j'attendais toujours en coulisses de pouvoir danser. Et en fait, je n'étais jamais distribuée. Et on me disait, si, on va te faire des papiers, tu vas pouvoir danser et tout. Puis on m'obligeait à prendre tous les rôles au cas où qu'il y ait quelqu'un qui se fasse mal, qui se blesse. Que
alors,
je
vous étiez comme le second rôle qui n'allait pas sur la scène jamais.
Jamais. Et on me disait toujours, mais si, t'inquiète pas et tout ça. Et voilà, et on me donnait $20 par semaine pour manger.
Mais
en
c'est incroyable.
Comptant. Oui.
D'où, alors, à ce moment-là, l'espèce de révolte.
Ça a été long quand même. Moi, je me dis avec du recul, je me dis franchement, j'aurais dû me réveiller plus tôt. Hein.
Mais... Il vous donnait $20, vous appreniez les chorégraphies, tout ça.
Ouais.
Puis vous étiez le ballet, ballet là, en arrière.
Oui, puis on me payait $80 par mois et ça me payait juste mon épicerie.
Donc, j'avais donc la exploité. Chance. Là, vous aviez quel âge là, à ce moment-là?
J'avais 19 ans. Huh. 19 ans et demi, 20 ans peut-être.
Alors là.
Je suis pas très bonne dans les dates.
À partir du moment où vous vous dites « mais c'est pas possible, je danse pas, je fais pas mon rêve, on m'exploite », vous partez au Canada, comment ça
va? En fait, non, je continue encore d'y croire. Je me dis « ben voilà, ils m'ont pas fait mes papiers, je m'en vais au Québec ». J'avais été repérée par quelqu'un, le directeur des ballets jazz de Montréal, qui m'a dit « oh, je t'adore, je te veux absolument », etc. J'arrive ici pour les ballets jazz, je travaille pareil, mais le même scénario qui se produit. On me fait apprendre tous les rôles, on me dit oui, bien sûr, mais par contre, pour intégrer la compagnie, il faut quand même que tu passes l'audition. Je passe l'audition, on est 1000 filles dans l'audition, j'arrive en dernier avec après toutes les étapes qu'il y a dans une audition, parce qu'il y a plusieurs étapes.
Ah oui, puis c'est affreux. Hein.
Ouais.
C'est
et affreux. J'arrive en dernier, donc avec une autre fille, et là, le directeur me dit, ben, je suis désolée, mais elle a une lettre de référence d'un ami à moi de Boston. Voilà, c'est elle que je prends.
Mais c'est pas
et
vrai.
Je me prends ça dans la figure. Et moi, j'ai travaillé pendant 10 heures par jour à apprendre les rôles de tout le monde, à venir au studio avant tout le monde, à partir du studio après tout le monde. Et j'avais pas un rond, j'avais pas d'argent. Je mangeais rien. Je mangeais un bol de lentilles dans la journée.
Et quand est-ce que le réveil se fait? Le réel réveil?
Le réel se fait à peu près à cette époque-là, à cette période-là où je suis blessée. Physiquement, j'ai plusieurs tendinites, une déchirure musculaire.
Moralement aussi.
Hein. Et moralement, je suis détruite.
Ouais,
et je me dis, ben voilà, c'est... Et en même temps, une expérience que j'ai, dont je n'ai jamais parlé, ben, je me dis maintenant, il faut quand même que je commence à en parler. Mais voilà, je crois en Dieu, j'ai la foi. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas musulmane, je n'ai aucune religion et je ne veux appartenir à aucune religion, mais j'ai la foi. Et je prie beaucoup. La prière fait partie de ma vie. Et j'ai prié. Et voilà, il y a une voix intérieure qui m'a dit, Roxana, c'est plus le temps pour toi, c'est le temps d'arrêter et de tourner vers autre chose. Et j'ai écouté cette voix-là et j'ai arrêté, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, ben voilà, maintenant c'est fini. Mes parents m'en ont voulu à mort, ils m'ont dit, ben maintenant tu te débrouilles, on ne veut plus jamais entendre parler de toi.
Ah, mais disons.
Donc,
vous recevez des claques, vous, c'est pas évident votre vie.
Donc
hein.
Je me retrouve à 20 ans, seule, à Montréal, connaissant personne et pas d'argent.
Qui vous a tendu la main?
D'abord, il y a eu l'homme que j'ai rencontré, dont je suis tombée follement amoureuse, qui a été mon premier mari, dont je me suis séparée, qui m'a tendu la main, qui, voilà, ça a été une super belle histoire d'amour. Et ensuite, bah, petit à petit, on se marie, j'ai mes papiers, je peux rester au Québec, je fais du télémarketing. Mes premiers employeurs qui m'ont tendu la main, qui ont cru en moi, et voilà, et en télémarketing, bah, j'étais super bonne. Et j'aimais ça, et en plus, j'étais bilingue à l'époque, donc c'était très bien. Et je clenchais des ventes sur ventes. Voilà, je me défoulais au téléphone.
Donc là, ça allait bien. Vous remontez, vous rencontrez l'amour.
Ouais.
Vous remontez la côte. Comment vous en arrivez à vouloir aider les enfants? Parce qu'il y a, il y a évidemment...
C'est un processus parce que j'ai fait aussi une thérapie. J'ai vu une psychologue pendant 7 ans. Et je voyais très bien qu'en étant, en faisant du télémarketing, à l'époque, je travaillais pour une banque royale aussi. Et voilà, je savais que ce n'était pas mal.
Ah oui, vous aviez un job,
oui,
un
très
travail très, 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 très bien payé.
Oui, avec une belle carrière devant moi.
Oui, c'est ça. J'ai vu ça dans les notes. Elle quitte quelque chose d'une sécurité incroyable pour aller s'occuper des enfants.
En fait, la banque m'avait proposé d'être conseillère en investissement. Et il fallait que je suive des cours parce qu'ils me trouvaient bonne. Et je me suis dit, ben non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et en même temps, je faisais ma thérapie avec ma psychologue. Et je me rappelais de rêves, de choses, de... Tu sais, quand il y a une lampe qui s'allume en toi, puis qui s'éteint pendant 5 ans, 10 ans, puis tout d'un coup, elle se rallume. Et à chaque fois que moi, ma lampe s'allumait à l'intérieur, c'était quand j'entendais des histoires tragiques d'enfants qui souffraient. À chaque fois que j'entendais des histoires d'enfants, que je voyais des enfants qui souffraient dans le monde, cette lampe à l'intérieur de moi, elle s'allumait. Et je me suis
dit... Et ça a été le moment déclencheur, alors.
Et ça, voilà, et je me suis dit, bah, il faut que je vive cette expérience pour voir si c'est vraiment ça que je veux faire, parce que j'étais remplie de ça. Moi, quand j'étais petite, ma mère me forçait à lire des revues sur la danse, mais moi, je lisais la biographie de Gandhi ou de Mère Teresa.
Ah, voilà.
Et c'était ça, moi, qui m'allumait.
Voilà, et quand, on y est, là.
Et quand l'abbé Pierre passait à la télé, voilà, je me précipitais pour aller écouter Sœur Emmanuelle.
Voilà.
Qui parlait de ses enfants
au Caire. Donc, cette petite lampe qui s'allumait à ce moment-là,
oui.
Ça a été là, on vous dit, bon, on vous donne de l'argent pour la banque, ça va très bien, mais là, c'est que non, je suis malheureuse.
Oui, la lampe a été complètement éteinte. Et je me dis, ben, il faut que j'aille vers où la lampe s'allume. Et la lampe, elle s'allume quand on parle des enfants qui souffrent.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que j'ai
décidé. Ça vous touche parce que vous avez eu cette enfance, comme on dit chez nous, poquée, là, brisée, là.
Je sais pas si ça vient de là, honnêtement, j'en sais rien, parce que, je veux dire, ma sœur a eu la même enfance, et il y a plein de gens qui font ce que je fais, qui se dévouent à une cause, qui se dévouent pour des enfants, qui n'ont jamais vécu ce que j'ai vécu.
Mais comment
donc,
vous
je
faites
sais pas, moi.
Pour dire, bon voilà, j'ai ma lampe, j'ai une émotion,
ouais.
Comment je vais faire pour aider, poser un geste concret?
La première chose, c'est d'abord d'essayer de voir si c'est vraiment fait pour nous. Donc, de vivre cette expérience-là. Moi, je voulais aller travailler dans un orphelinat. Je m'en foutais, où que ce soit en Afrique, en Inde, peu importe, en Amérique du Sud. C'était pas important.
Alors, c'est là que vous êtes partie. Hein?
Et j'ai eu la chance de partir en Inde par l'organisme Child Heaven, qui est un organisme que j'adore. On me demandait tout à l'heure, c'est qui mes héros? Ben voilà, c'est eux, c'est Bonnie et Fred Cappuccino, les fondateurs de cet organisme-là.
Alors, vous trouvez l'adresse? Comment vous débrouillez? Vous dites, comme c'est parce que j'ai plein d'organismes, là.
Je cherche. Ah, mais j'ai appelé, j'ai envoyé mon CV qui
ne
contenait rien, parce qu'on s'entend que j'ai quand même quitté l'école à 14 ans. Hein.
Uh-huh.
Donc, moi, voilà, je ne sais pas grand-chose hein, à cette époque-là. Donc, je suis refusée partout.
Ah oui?
Et bah oui, il n'y a personne qui veut de moi.
On ne veut pas rien savoir
de
vous. On vous ferme les portes.
Bah oui, oui. Puis bon, je comprends tout à fait hein, maintenant. Mais voilà, les portes sont fermées partout. Il y a juste Fred et Bonnie Cappuccino de l'organisme Charles Even qui m'acceptent et qui me disent bah oui, Roxana, tu peux partir en Inde, travailler dans un orphelinat, dans un de nos orphelinats. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a été l'expérience qui a bouleversé ma vie, mais qui en même temps a concrétisé un rêve, mais aussi qui a fait que j'ai découvert ma voix. C'était ça ma voix. C'était ça. C'est ce que je fais en ce moment. C'est ça ma voix. La lutte contre l'exploitation des enfants, contre la pauvreté, voilà, c'est ça.
Et en même temps, là, vous avez vraiment la petite lumière qui s'est allumée, qui est restée allumée,
ouais.
Mais en même temps, c'est très dur.
Oui, c'est extrêmement
c'est
difficile.
C'est aussi ce que vous avez vécu avant 2 ans, mais
ouais.
De voir ces enfants, vous traversez un pays qui n'est pas évident,
ouais.
Humainement parlant,
ouais. Ouais,
et c'est... de rentrer dans un orphelinat... C'est quoi votre première impression ?
L'orphelinat en tant que tel, c'est génial parce que les enfants ont des grands yeux magnifiques et ils n'ont besoin que d'amour. Voilà. Alors, c'est génial. L'orphelinat en tant que tel, c'est magnifique. C'est des enfants qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de jouer, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et on est une gang de bénévoles et on est là pour ça. On est là pour eux. Donc, ça, c'est merveilleux.
Vous restez combien de temps ?
3 mois.
Les 3 mois, ça se passe comment ?
Avec des hauts et des bas. Je tombe d'abord très malade. L'Inde est un pays qui me rend malade à chaque fois que j'y vais. Alors, je tombe malade, mais je rencontre des gens extraordinaires et les enfants sont extraordinaires. Et je vois des choses qui me bouleversent à un tel point que...
Voilà. On fait une petite pause musicale, on revient.
Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. Lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie. Un enfant contre soi.
Je vous rappelle qu'on est en direct, mesdames, messieurs. On reçoit aujourd'hui à mon émission ces gens qui font la différence. Roxana Robin, elle est fondatrice et directrice de Aide internationale pour l'enfance. Et je vous rappelle, mesdames, messieurs, que dans le monde, 300 millions d'enfants travaillent alors qu'ils ne devraient pas travailler. Je vais dire ça comme ça. Madame Robin, on est rendu à l'orphelinat, les 3 mois.
Mm-hmm.
Vous me dites que ça a été très dur. Bon, physiquement, vous êtes toujours malade quand vous allez en Inde. Mais
surtout,
il y a eu des hauts et des bas. C'était quoi les...
L'Inde est un pays extrêmement difficile. La situation des enfants est horrible. La situation des femmes est absolument injuste. Et d'être témoin de ça, c'est, pour moi, c'est absolument horrible. Voilà, j'ai trouvé de voir des petites filles se prostituer, de voir des enfants être obligés de fouiller dans les poubelles pour se nourrir, de voir une mère... voilà, on a des images qui nous restent gravées pour toujours. Et tu sais, une mère qui essaie d'allaiter son enfant, mais elle sait très bien, elle est tellement maigre et son enfant est tellement maigre qu'elle sait très bien qu'elle va mourir. Et ça se voit dans son regard qu'elle sait qu'elle va mourir. Et elle essaie quand même, malgré tout, d'allaiter son enfant. Et on voit à quel point la vie tient qu'à un fil pour beaucoup de personnes. Et c'est cette pauvreté que je trouve extrêmement intolérable.
Oui. Ouais. Qui vient vous chercher complètement.
Oui.
Et qui vient nous chercher tous.
Oui. Ouais, cette espèce de désespoir. Voilà. Et les enfants, on ne choisit pas le pays où on est. Hein. J'en sais quelque chose. Donc, je me dis, pourquoi il y a des enfants qui ont la chance d'aller à l'école, de vivre une belle vie, et puis d'autres qui sont obligés, dès l'âge de 3 ans, de travailler, de survivre, d'être exploités, d'être battus, d'être violés. C'est injuste et terriblement injuste, l'exploitation des enfants.
Et je
pense qu'on est responsable, en tant qu'adulte, dans nos choix, dans ce qu'on fait. C'est pas un tsunami, l'exploitation des enfants. C'est pas un tremblement de terre. Ça, voilà, donc il y a des choses qu'on peut faire.
Mais il y a des responsabilités politiques, gouvernementales.
Tout à fait.
Je veux dire, s'il y a autant de pauvreté, parce qu'il y a des gens qui tapent pas à la bonne place.
Hein. Ouais.
Il y a des gens qui tapent sur ces gens-là, aux parents.
Mm-hmm.
Mais c'est parce qu'ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien.
Fait.
Alors il faut taper au bon endroit, comme on dit.
Oui, ouais. Puis il faut secouer l'indifférence des citoyens, il faut secouer les gouvernements qui ne bougent pas. Il y a des conventions qui existent mais qui ne sont pas appliquées parce que les pays n'ont pas les moyens. Donc voilà, il y a plein de choses à faire à plein de niveaux.
Ouais. Parce que ce n'est pas un choix. Vous parliez de prostitution,
c'est
épouvantable.
Ce n'est pas un choix.
C'est épouvantable. Et souvent, ils le font pour rapporter de l'argent à leurs parents.
Oui, et les parents...
Pour pouvoir manger.
Les parents n'envoient pas leurs enfants travailler parce que c'est des mauvais parents ou parce qu'ils sont inconscients ou parce qu'ils sont malveillants. Les parents, pour la plupart du temps, envoient leurs enfants travailler parce qu'ils n'ont pas le choix.
Parce qu'ils ont faim.
Parce qu'ils ont faim, parce que c'est la survie de leur famille. Donc, il faut aider à la fois les enfants, mais il faut aider aussi beaucoup les familles.
Mais il faut que ça commence aussi par le haut. C'est-à-dire d'avoir de l'argent, que ces gens-là puissent manger, puissent vivre convenablement.
Oui, oui. Puis il y a beaucoup d'éducation à faire. Nous, on croit énormément à l'éducation, changer des mentalités, changer des traditions.
Oui. Donc, vous avez parlé de l'Inde, ça c'est sûr que... Bon, dernièrement, on en a parlé beaucoup parce qu'il y a eu des viols à répétition, mais ça fait des siècles.
Ben, oui.
Ça
oui.
fait des siècles, les femmes ne peuvent même pas aller à l'école.
Ah non, c'est pas nouveau, ça.
Ouais.
Ouais. Donc non, il y a énormément de travail à faire, autant au niveau de la pauvreté, autant au niveau de l'éducation.
Alors vous fondez...
L'Aide internationale pour l'enfance.
Est-ce? Donc vous passez, on vient un petit peu en arrière, on va en avant aussi. Hein.
Okay.
vous passez vos 3 mois, là, on sent que la flamme est là, qu'il y a des hauts et des bas, que ce n'est pas facile de voir tout ça, parce que c'est humain, puis de voir que l'humain fait ça à l'être humain.
Ouais.
C'est révoltant.
C'est extrêmement révoltant.
C'est révoltant.
Et voilà, et je me dis non, il y a des choses à faire. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est juste de savoir qu'il y a des choses à faire. Et ma vision n'a pas changé en 15 ans. Moi, je me suis toujours dit, mais même si je change la vie d'un enfant, si c'est juste un enfant que je vais aider, et si ça me prend 30 ans pour le faire, ça va me prendre 30 ans, puis j'aurai aidé juste un enfant.
Mmh.
Mais je vais les faire.
Ouais.
Donc, ça a été de voir petit aussi, en même temps, de commencer petit. On peut aider, on peut faire une différence.
Alors, vous revenez à Montréal après.
Oui.
Et
là,
vous avez tout ça.
Mon organisme. Et il n'y a personne qui me croit capable, parce qu'effectivement, je n'ai aucune éducation, je ne connais personne, je n'ai pas de réseau. Et surtout,
mais vous avez la meilleure éducation?
Celle
du cœur?
Oui.
Non, mais celle du cœur, de l'humanité.
La conviction, on va dire. J'ai la conviction.
Ben oui.
J'ai la conviction.
Les gens ne veulent pas vous aider au début?
Pas tout le monde, j'étais beaucoup, beaucoup découragée, mais c'est ça, c'est ce qui fait que j'ai réussi à fonder l'organisme, c'est que j'ai rencontré des gens extraordinaires, et là je pense à notre présidente actuellement, Christine Durocher, qui a été ma patronne, elle a travaillé, en fait, moi j'ai travaillé pour elle comme éducatrice dans un centre de petite enfance, elle était la directrice, elle est toujours la directrice, et voilà, ça a été une des premières personnes à croire en moi, et elle est toujours là 15 ans plus tard.
Ah,
donc, oui, et c'est elle qui a rédigé les demandes de subvention parce que moi, je ne savais pas
écrire.
Parce qu'on
vous disait non Pourquoi on ne croyait pas à votre projet?
Parce que d'abord, il y a beaucoup d'organismes. D'abord, c'est toujours la question, mais pourquoi tu veux fonder un autre organisme alors qu'il y en a autant qui sont déjà là? Ensuite, mais tu ne connais personne. As-tu étudié dans le domaine? Non, je n'ai pas étudié dans le domaine. Donc voilà, les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient juste pas pourquoi je voulais le faire.
Alors, votre organisme, vous l'ouvrez finalement?
Oui, en l'an 2000, finalement, il voit le jour. En 2003, on obtient nos premiers fonds et notre numéro de charité qui fait qu'on peut émettre des reçus d'impôts, qui fait qu'on est reconnu par le gouvernement fédéral. Donc voilà, on fait un petit bout de chemin. Je rencontre des gens extraordinaires, dont Christine, dont Bernard Beauchamp, aussi notre trésorier, qui nous a prêté un local pendant 7 ans. Il me voyait travailler depuis ma cuisine. Il m'a dit, Roxana, ça n'a pas de sens. Je te prête un local dans mon entreprise. Et voilà, j'ai eu un petit local dans son entreprise pendant 7 ans. J'avais rien à payer. plus l'infographiste, plus la comptabilité gratuite. Voilà, c'est des petits coups de main, mais qui sont essentiels à la survie d'un organisme et au démarrage d'un projet. Et moi, si j'ai réussi à faire ce projet-là, un projet de vie, c'est parce qu'il y a eu des gens, des personnes extrêmement compétentes, mais aussi en même temps extrêmement généreuses,
ben oui,
qui ont participé.
Oui, parce que c'est beau de dire ah, c'est bien ce que tu fais, mais qui ne veulent, veulent même pas prêter quelque chose.
Et puis, c'est pas moi toute seule, c'est ça que je veux dire, c'est que la IPE, ce qu'on fait, ce n'est pas Roxana Robin. C'est toute une équipe de gens qui se rassemblent, qui travaillent ensemble.
Alors, vous, vos missions, comment ça fonctionne à l'organisme? Bon, vous allez, je pense, il y a les Philippines, il y a...
Alors, en fait, pour l'instant, il y a l'Inde principalement,
oui,
et un projet en Thaïlande à Bangkok,
ça. OK. Alors, c'est d'aller, d'avertir, de sonner la cloche.
Oui.
Vous partez en mission, comment
en
ça
fait,
fonctionne?
En fait, nous, on est un organisme de coopération internationale, ce qui veut dire qu'on agit toujours par l'intermédiaire d'un organisme local.
Voilà.
Donc, en Inde, on fait affaire avec des organismes locaux qui connaissent la communauté, qui connaissent la culture, qui connaissent les traditions, etc. On n'arrive pas là avec notre drapeau en disant, voilà, tassez-vous, on va faire
non.
notre projet.
Non, non.
On prend les ressources locales qui existent, on essaie juste de les aider, eux, à faire leur projet. Et en fait, oui, on travaille à la fois à la diminuer la pauvreté et en même temps à éduquer les gens. Donc, on sort les enfants qui sont victimes d'exploitation, on les éduque et on peut les éduquer. Tu sais, on a sorti des petites filles à l'âge de 7 ans qui étaient esclaves domestiques. Elles sont rendues maintenant à l'âge de 14 ans. Ça fait 7 ans qu'on les éduque.
Dites ça, ça...
Oui, et ces jeunes filles-là maintenant, elles ont des rêves et on va continuer à les éduquer. Et on éduque les parents aussi en même temps.
Ouais.
On travaille avec des jeunes femmes à Mumbai qui ont vécu des sévices sexuels horribles, qui sont des survivantes de la traite sexuelle. Et pareil, on les éduque, on les forme, on les soigne pour les réhabiliter dans la société. Donc c'est vraiment c'est la clé de nos projets. L'éducation.
Alors, on va à la prochaine pièce musicale. C'est encore votre choix, comme c'est toujours à l'émission. Francis Cabrel, Il faudra leur dire. Je pense que ça arrive à point, cette chanson, non?
Oh oui, un beau message.
Et ça, pourquoi vous l'aimez?
J'ai toujours aimé cette chanson. De toute façon, j'ai toujours aimé les chansons qui parlaient des enfants, mais surtout parce que c'est dénoncer aussi, puis à la fois préserver l'enfance et à la fois aussi dénoncer ce qui se passe.
On l'écoute.
Puisqu'on vit dans les creux d'un... C'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment. Si les enfants sont tous les mêmes, alors
il faudra leur dire
les mots qu'on reçoit. C'est comme des parfums qu'on respire. Il faudra leur dire.
Facile à faire.
Roxana Robin, vous auriez commandé une chanson à Francis Cabrel, ça aurait été parfait, ça aurait
oui,
été celle-là.
Ça aurait
hein.
été celle-là, carrément, oui.
C'est carrément une chanson...
Je l'écoutais quand j'étais enfant, j'adorais cette chanson, j'adorais. Mmh. Mais même maintenant, je veux dire, quand je l'écoute, j'ai toujours une petite larme qui coule, c'est horrible, je veux dire, je peux pas m'empêcher de... Ouais,
parce que vous pensez aux enfants, c'est votre vie, c'est votre...
Ouais.
Est-ce que c'est difficile quand vient le temps d'être maman soi-même? Est-ce qu'il y a... Il y a toujours ces questions en arrière de se dire, ah, on met un enfant au monde avec tout ce qui se passe avec les enfants et tout. Êtes-vous une mère poule? Êtes-vous une
je
mère
suis
protectrice?
Horrible parce que j'ai,
j'imagine.
Et voilà, et en plus, je me renseigne beaucoup en ce moment sur le trafic des femmes parce que je donne des conférences là-dessus et je vois à quel point les jeunes filles ici sont extrêmement vulnérables et qu'il y a beaucoup de victimes de trafic sexuel ici, la pédophilie.
On n'en parle pas, parce tout à l'heure on a parlé, mais il me semble que c'est assez hypocrite de ne pas en parler, et il y en a au Québec.
Mais évidemment.
Il y a de la prostitution, il y a des
forcée.
Histoires...
Forcée.
Exactement.
Forcée, de la prostitution forcée, je ne parle pas des jeunes filles qui s'en vont faire une ou deux passes pour payer leurs études en médecine, là, et qu'elles le font peut-être en toute connaissance de cause, enfin j'ose espérer qu'elles le font en toute connaissance de cause. Non, je parle des jeunes filles de 14-15 ans qui sont forcées, et qui ont entre 20 et 30 clients par jour. Alors c'est qui ces hommes-là? C'est
ouais.
qui
ouais.
Bah, c'est monsieur tout le monde.
Ouais. Parce que, évidemment, quand on parle, quand on s'occupe des enfants, c'est la sexualité, mais non seulement ça, c'est tourisme sexuel qui est là en masse.
Ouais.
Il y en a beaucoup.
Puis on voit à quel point nos enfants sont en danger au quotidien. Et oui, je suis une mère horrible parce que voilà, je surprotège mes filles. Moi,
Qu'est-ce que vous leur dites à votre fille?
Oh, ma plus grande a 7 ans, ma plus petite a 4 ans. J'essaie de ne pas trop leur faire peur. Mais d'un autre côté, je veux qu'elle soit avisée, je veux qu'elle soit au courant. Moi, ma nièce qui a 14 ans, mais j'arrête pas, quoi. Non, je veux dire, tu ne suis pas le premier venu. Puis, si on te demande de faire une fellation, tu ne la fais pas si tu n'en as pas envie. Puis, il faut que tu fasses attention, tu ne suis personne. Puis même s'il y a un copain qui est gentil, qui t'offre des cadeaux, ben demande-toi pourquoi il t'offre des cadeaux. Voilà, il faut être extrêmement alerte maintenant. Jeunes filles, mais les jeunes garçons aussi. Les jeunes, de manière générale, ont besoin d'être extrêmement alertes parce que c'est des proies faciles pour tous les gangs de rue, les pédophiles, tous les réseaux de proxénètes qui existent. Nos jeunes sont des proies extrêmement faciles.
Mmh. Des éponges.
Peu importe des éponges, d'où ils viennent et peu importe leur éducation, parce qu'on pense souvent que c'est seulement les jeunes filles un peu esselées qui vivent dans la rue, qui ont vécu des trucs durs, qui se retournent dans les centres jeunesse. Alors oui, de manière générale, c'est vrai que ça va être des jeunes filles qui vont être beaucoup plus amenées peut-être à être des victimes de la traite sexuelle, mais on retrouve des victimes de traite sexuelle chez des jeunes filles qui viennent de familles riches, éduquées, qui voyagent, voilà.
Et qu'est-ce que vous pensez, quoi, finalement, à ces adultes qui exploitent les enfants? Je parle touristique parce qu'on en a parlé tout à l'heure, et je pense que vous et moi, on est un peu d'accord sur le fait que parfois, quand on a une vie dans une pauvreté, ses parents n'ont pas le choix.
Non.
Mais les touristes qui traversent...
Mais ils en profitent
les touristes qui traversent et qui n'ont aucune...
Aucune conscience, parce qu'en fait...
Aucune conscience, mais non seulement ça, aucune... punition, rien
aucune
du tout.
Aucune punition, puis c'est des pervers. Je veux dire, eux, ils disent, je leur donne 10 francs ou 10 dollars, ça lui permet de se nourrir pendant une semaine. Ben, regarde, si tu veux aider l'enfant, donne-lui l'argent, mais demande-lui pas de te faire une fellation en échange. Je veux dire, il est où l'aide, là? Je veux dire, il n'y en a aucune aide.
Alors eux, ils ont la vie facile, quoi.
Ben oui, puis ce qui m'enrage, c'est la justice qui est mal faite. Hein, quelqu'un qui va abuser d'un enfant, ici, il va avoir quoi? 2 ans de prison, gros maximum.
Ouais.
Hein? Après, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va ressortir.
Exact.
Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, on va attendre qu'il fasse une prochaine victime pour le remettre à l'intérieur. Alors, on ne s'occupe pas de la victime. Voilà, on sait qu'il va faire une prochaine victime, ben, on attend qu'il en fasse une.
Ouais.
Et ça m'enrage.
C'est complètement révoltant, ça.
C'est révoltant. Ouais, ouais. Révoltant. Moi, je trouve que les crimes sexuels vis-à-vis des enfants devraient être punis beaucoup plus durement dans notre système de justice.
Ouais. Et dans les pays aussi, parce et que ces touristes-là,
ils sont... Quand je parle de crimes envers les enfants, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs...
Ouais, ouais.
Mais ça commence, hein. Il y a quand même des lois qui existent où maintenant, quand les touristes sont pris dans un autre pays à commettre des actes sexuels envers... Bon, ils peuvent être jugés, etc. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'il faut des témoins, il faut monter un dossier, il faut que les enfants qui ont été abusés sexuellement puissent témoigner. Donc, il y a toute une procédure judiciaire qui fait que c'est lourd, que c'est long. Donc, la personne, pour l'instant, elle a le temps de faire ce qu'elle veut.
Là, j'aimerais revenir sur un côté positif, parce que quand on écoute tout ça, c'est la réalité.
Oui, malheureusement.
Crue et réelle, et c'est bien qu'on est là et que vous êtes là pour en parler, mais est-ce qu'elles s'en sortent, ces jeunes filles-là? On parlait des jeunes filles, puis j'aimerais aussi dire qu'il y a des garçons, mais celles que vous en avez parlé tout à l'heure...
Oui, elles s'en sortent.
Elle était dans la rue à 7 ans. Je ne parle pas dans la rue parce qu'elle ne mange pas, mais justement pour...
Oui, les enfants s'en sortent. Et c'est pour ça qu'on mise énormément, qu'on valorise beaucoup, beaucoup l'éducation et la formation professionnelle. Et les soins de santé. Et il faut travailler à ces trois niveaux en même temps, pas l'un sans l'autre non plus. Mais oui, les enfants s'en sortent. On a des petites filles qui travaillent dans des usines à crevettes. Elles avaient 11 ans. Et maintenant, elles sont rendues ingénieures.
Extraordinaire. Vous les avez sorties?
Oui. Et on les a aidées pendant plus de 10 ans. On les a éduquées. On les a soignées.
Mais alors, au niveau des gouvernements, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir... Par exemple, on a vu les catastrophes qui s'est passées dans les usines à vêtements, justement. Puis les gens se sont réveillés alors que ça a toujours été là. Il ne pourrait pas y avoir des lois pour dire que vous n'avez pas le droit d'engager...
Alors, il y a des lois, en fait, qui existent. Il y a des conventions.
C'est quoi, des lois pipeaux, des lois
non,
de...
Non, c'est juste que
dans des boîtes de crack and jack, comme on dit.
Oui, c'est que malheureusement, ils n'ont pas les moyens de faire appliquer ces lois. C'est ça le problème. C'est que les pays, souvent, n'ont pas l'argent pour faire appliquer ces lois qui existent, ces conventions-là, qui existent, qui pourraient protéger...
Vous voulez dire, le directeur de l'usine, il a la loi... Mais il s'en fout complètement.
Oui, puis il n'y a personne qui surveille, puis la police est corrompue. Voilà, je veux dire, c'est tout un système aussi qui est corrompu, auquel il faut faire face. Et là, je voulais juste quand même dire quelque chose, c'est qu'on s'est réveillé au niveau du domaine du textile, mais je veux juste souligner que l'industrie du textile est peut-être la moins pire. C'est un des secteurs les moins pires qui exploitent les enfants. Il y a le secteur de l'agriculture qui est pire que le secteur du textile. Et évidemment, on a parlé de l'exploitation sexuelle. Il y a les mines,
il y a toute
l'industrie des produits chimiques.
Vous disiez tout à l'heure.
Et voilà, et ça, les gens le savent pas.
Non, donc, c'est vrai, on en parle très peu, ça.
Ben non, et nos enfants rêvaient d'aller travailler dans des usines de vêtements. Eux, c'était ça leur rêve.
Parce que c'était moins pire.
Parce que c'était moins pire c'est que de choisir travailler dans pire. Une usine à crevettes avec des produits chimiques. Voilà. Et ça, les gens le savent pas. Mais la plupart des gens, quand on va en Inde, quand on va dans ces pays-là, ils nous disent ben oui, travailler dans une usine de textile ou t'es devant une machine à coudre, ok, c'est dur. Oui, c'est difficile. Oui, t'es mal payé. Mais c'est tellement moins difficile que ce qu'ils vivent dans leur réalité, à tailler des pierres ou voilà, je veux dire, c'est...
Alors, énormément de travail à faire. Avant de passer au prochain segment, ce sera les questions. Est-ce qu'il y a des jours où vous êtes découragée, Roxana?
Souvent. Très souvent. Mais la seule chose qui me porte, c'est d'abord de savoir que ce qu'on fait sur le terrain est concret. Et qu'on aide concrètement des gens, des enfants, des parents, des femmes. Donc ça me porte. Et ce qui me porte, moi, c'est les gens qui m'entourent.
Votre équipe,
hein? Oui, mon équipe. Mais c'est... Puis eux, ils me portent. C'est eux qui me portent. Donc c'est pour ça qu'on continue.
Vos filles, qu'est-ce qu'elles disent de vous?
Mes filles, elles ne savent pas vraiment ce que je fais. Elles savent que maman aide les gens qui sont pauvres. Et puis, ma fille, c'est une mère Thérésa en puissance.
Elle vous ressemble.
Et ouais, ma première, ma deuxième est beaucoup plus... elle pourrait être une danseuse classique, elle. Le caractère pour faire de la danse classique.
Vous avez les deux, vous avez vraiment votre personnalité dans vos deux filles.
J'ai ma personnalité dans mes deux filles, je mets deux côtés, oui, c'est super.
Alors, on fait une pause musicale, on revient pour le jeu questionnaire de la fin de l'émission. Thank you. Justement, ça me fait penser cette musique à vos racines. Vous en êtes où avec,
avec ça? Je me questionne beaucoup. Je me questionne souvent sur mes racines, ça, surtout avec des enfants. C'est, mes filles se perçoivent et elles sont très québécoises. Et elles me le disent souvent. Maman, quand je reprends ma fille, quand elle parle, elle me dit « Mais maman, je ne suis pas française, je suis québécoise. » Alors elles, pour elles, c'est clair, elles ont des racines. Et moi, je n'en ai pas. Moi, je n'en ai pas. J'en ai pas. Mes racines, c'est mon conjoint.
C'est votre socle.
C'est mon socle. C'est mon port.
C'est lui qui
c'est
qui,
mon port d'attache.
Qui
c'est
vous
mon socle.
Aide vraiment.
Oui,
hein.
Ouais. C'est ma racine, je dirais, c'est mon conjoint et mes enfants. Ma sœur et ses enfants. Et voilà, c'est ça mes racines. C'est les gens que j'aime qui sont importants dans ma vie, sans qui je ne pourrais pas faire ce que je fais. Donc, c'est eux mes racines. Ce n'est pas un endroit dans le monde. Ce n'est pas une culture. Ce n'est pas un pays. Mes racines, c'est mon conjoint, ma sœur, mes enfants, ses enfants.
Alors, on est rendu au jeu questionnaire. Alors, ce qui inspire, Roxana, vos personnes qui vous ont inspiré.
D'abord, il y a Christine Durocher, ma présidente, qui m'inspire au quotidien dans ce qu'elle fait, dans qui elle est. Une personne brillante, généreuse, extrêmement inspirante. Et c'est beaucoup des gens au quotidien. Beaucoup des gens qui ne sont pas connus, mais qui font partie de mon quotidien, qui, quand je leur parle, quand je les vois, quand je les rencontre, voilà, ça me donne un coup de pied aux fesses et ça me donne envie de continuer. Et puis sinon, la personne qui est connue, que j'aime beaucoup, j'adore lire
ses
livres.
Dans vos mentors, oui, dans vos mentors.
Ben, mon mentor un peu spirituel, je dirais que c'est Martin Gray. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur.
Oui, tout à fait.
Et je lis ses livres.
Le premier livre, j'imagine, qui a dû vous bouleverser.
Oui, ben, je l'avais lu, j'avais 14 ans, je pense, j'ai vu le film. Mais après, j'ai lu ses autres livres. Et parce que je fais souvent des retraites dans des maisons de prière et il y a souvent ces livres-là qui traînent et ça me permet de les lire. Et voilà, lui, c'est un homme que je rêverais de rencontrer, de serrer dans mes bras parce qu'il a une façon de voir l'humanité qui est extrêmement inspirante.
Et passer au travers, comme on
dit. Passer au travers des épreuves, oui.
Donc, j'imagine que dans vos livres, il fait partie de vos bibliothèques.
Oui. Non, j'ai pas de livres. En fait, moi, j'ai pas vraiment de bibliothèque à la maison. Je vais beaucoup à la bibliothèque de notre quartier.
Alors, les livres qu'on pourrait, lire, que vous aimez beaucoup.
Ben, Martin Gray, c'est vraiment quelqu'un que je recommande à tout le monde de lire et de lire tous ses livres parce que je les trouve absolument magnifiques. Je les trouve extrêmement inspirants. En ce moment, j'adore. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais dans la vie, mais j'adore Catherine Pancol.
Oui.
Elle est géniale,
oui,
j'adore son humour, j'adore sa façon lyrique d'écrire.
Oui,
je la trouve extraordinaire, la façon qu'elle a de décrire les personnages et tout, les émotions des gens. Donc ça, on peut le retrouver.
Sa spontanéité aussi.
Oui.
Donc, dans vos artistes, est-ce qu'il y en a qui...
Des artistes, j'en aime beaucoup, mais non, j'ai personne, je ne suis pas du tout une fan. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui va faire la queue pendant des heures pour acheter un billet pour aller voir quelqu'un. Non.
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 Vos villes, en terminant, vos villes.
New York. C'est ma ville.
Vite, hein?
Ah oui, c'est ma ville.
Alors, pourquoi?
Parce que je me retrouve, parce que c'est que des déracinés. La plupart des gens à New York sont des déracinés qui se cherchent.
Ça a été tout de suite, hein, dans l'entrevue, vous m'avez dit, avant même qu'on parle de votre passage à la compagnie de danse, c'était « j'adore New York ».
Ah oui, j'adore cette ville. J'adore parler avec les chauffeurs de taxi, avec les petits vendeurs de hot-dogs sur la rue. Parce que voilà, pour moi, ils sont mes compères, c'est des compatriotes, c'est des gens qui ont quitté leur famille, qui ont tout quitté, qui essaient de survivre et qui n'ont pas de racines et qui essaient de s'ancrer.
Une ville qui vous fait du bien, donc.
Oui, beaucoup.
Oui.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
On termine l'émission. J'aimerais avoir, c'est très, très important ce que vous faites. Vous savez combien vous nous faites du bien, vous faites du bien au monde.
Oh, c'est gentil.
Si on veut vous suivre, si on veut donner, si on sait que c'est pas facile.
Absolument. D'abord, on peut être membre pour seulement 5 $. Allez-y, soyez membre de l'IPE, encouragez-nous. Ça coûte juste 5 $. Parrainer un enfant, on peut le faire pour seulement 40 $ par mois. Donc, allez sur le site web www.aipe-cci.org et encouragez-nous, aidez-nous, soutenez-nous, on en a vraiment besoin. Enfin, nos enfants que l'on aide en ont besoin.
Alors, merci beaucoup, Roxana.
C'est moi qui vous remercie.
Merci infiniment. Mon équipe aujourd'hui, elle était nombreuse. Réalisation, j'avais Jean-Sébastien Laliberté, Kamal Salifou, également Yannick Roberge, Christiane Campagna est ma recherchiste. Et nous avions Yannick Roberge aux choix musicaux et Claudia Benoît au web. Mesdames, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.